Le dévoilement de Dieu numéro 191. Se souvenir du Seigneur. 3 janvier 2021. Pasteur Brian Kozurek. Comme Sester un service de communion ce soir, j'aimerais prendre un message en commémoration de la nuit où Jésus décida de jouer son rôle comme agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. 1 Corinthiens 11:17. En donnant cet avertissement, ce que je n'ai mis le point, Sester que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Maintenant, qu'est-ce ce que Paul dit ici? Il dit, considérant ce dont je veux vous parler, je n'ai mis suis pas content. Je vois le tableau selon lequel quand vous vous réunissez, cela révèle votre mauvais côté au lieu du meilleur. Remarquez maintenant que l'apôtre Paul commence à montrer à l'Église dans quelles conditions il se trouvait. Au verset 18 et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il dit, j'entends que vous vous divisez les uns, les autres, étant en rivalité, les uns contre les autres, et vous critiquant mutuellement. Sester difficile à croire, mais Sester ce qui m'a été dit. Mais ensuite, il leur dit, pourquoi ils agissent de la sorte, les uns envers les autres. 19 Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. En d'autres termes, Paul dit que cette condition de dispute et débat dans l'Église, Sester parce que les gens n'étaient pas établis dans la vérité. Ils avaient des hérésies parmi eux, et ces hérésies ont fait ressortir le pire en eux, dans leur nature charnelle, mais Sester en ordre. Parce que cela identifie aussi celui qui marche dans la lumière et pas simplement en parler, et celui qui n'y marche pas. Alors Paul parle de la table de la communion. Et il dit, vint lors donc que vous vous réunissez, ce n'est-ce pas pour manger le repas du Seigneur? Remarquez que Paul dit ici, je suis choqué par votre comportement, car au lieu de vous rassembler pour partager le souper du Seigneur, vous vous rassemblez pour jouer, et au lieu de communier autour de la parole de Dieu, Sester est devenu une affaire sociale, et presque de la gourmandise. Et ensuite, je découvre que vous êtes divisés pendant l'adoration, quand vous vous rassemblez, au lieu de prendre le souper du Seigneur. Maintenant, au verset 21, car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Regardez à l'attitude que ces gens reflétaient par leurs actions. Ils s'étaient réunis pour souper, et les dîners d'église, comme frère Branham le disait, non pas que la parole de Dieu soit contre les gens qui communient lors du partage du pain, parce que découvrons dans le livre des Actes que c'était plutôt la manière dont ils communiaient autour de la table et ils brisaient le pain naturel. Il brisait aussi le pain de vie. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Maintenant, je veux que vous remarquiez que c'est Sester là que se trouvent les quatre fondamentaux de l'Église. Il dit qu'ils ont continué avec fermeté dans ce qu'ils faisaient, et ils étaient diligents et constants dans la pratique de ces choses. Ce n'était pas fait par moments, mais c'était un modèle de comportement dans l'Église primitive. Numéro 1. Ils ont été constants et diligents dans la doctrine. Remarquez qu'au verset 42, que la doctrine est mentionnée en premier et avant toute chose. Et quand l'Église primitive rétrograda, quel était leur péché? Ils ont abandonné leur premier amour. Apocalypse 2, 1-7. écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu n'es mis, peut supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui n'aimés le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'aies mis tes ailes point lassées. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es aille tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Et jetterai ton chandelier de sa place. À moins que tu n'aies mis te repente. Tu as pourtant ceci. C'est que tu as les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui est dans le paradis de Dieu. Ce premier âge de l'Église a commencé à s'éloigner de son premier amour. Ils ont adopté la conduite de l'homme, au lieu que la parole de Dieu les conduise. Ils ont commencé à devenir formalistes, comme Paul avait averti l'Église des Corinthiens, et l'amour pour la doctrine a été remplacé par l'amour de la communion et de l'Évangile social. Le livre des âges de l'Église chapitre 3, l'âge de l'Église d'Éphèse p. 63. Il y a quelques instants, j'ai dit que j'en comprenais ce que c'était que d'aimer Dieu. Ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer, si l'Église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu. Dans Jean 5, 3, il dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, sa parole. Le moindre écart par rapport à cette parole était un pas qui éloigne de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils vont à l'église. Ils crient même. Ils se réjouissent. Ils chantent et ils se sentent bien dans les émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole. S'ils marchent selon la parole. S'ils la vivent. S'ils font tout le reste. Et que Néhémie ne marche pas selon cette parole. Alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je redemande si Jean n'a pas vu beaucoup de cela avant de mourir, des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Oh, Église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaie d'ajouter à cette parole ou d'en enlever quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous n'y voyez rien. Ils n'ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire, ouvertement. C'est caché, ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine, et cela s'emparera de vous si vous n'aimez le refusez pas. Et encore dans le livre des âges de l'Église, frère Branham dit au chapitre 3, l'âge de l'Église d'Éphèse p. 76. Très bien. Maintenant, quel était le climat spirituel de cette Église? Elle avait abandonné son premier amour. Il nous est révélé qu'en quittant son premier amour de la parole de Dieu, elle était tombée de là où elle était à l'origine, c'est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut dire que cette Église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit, au contrôle de l'Esprit. C'est exactement ce qui est arrivé quand Moïse venait de faire sortir Israël d'Égypte. La manière de Dieu, c'était de les conduire par la nuée de feu, la parole prophétique, les miracles, les signes, et les prodiges de Dieu. Ceci devait être accompli par des hommes choisis par Dieu, établis par Dieu, équipés par Dieu et envoyés par Dieu, de sorte que tout le camp soit dominé par le Saint-Esprit en action. Ils se sont révoltés pour avoir un ensemble de règles et de credos à suivre. Puis ils ont voulu un roi. Ils ont voulu être exactement comme le monde, et ils ont abouti à un état d'apostasie et d'oubli total. C'est exactement ainsi que le premier âge de l'Église a commencé. Et cela va continuer à empirer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté, et que Dieu doive détruire les gens. Et encore frère Branham dit dans le livre des âges de l'Église chapitre 5, l'âge de l'Église de Pergame p. 149. Et depuis, c'est ce qui s'est produit dans tous les âges. Dieu libère les gens. Ils sortent par le sang, sanctifiés par la parole. Ils passent par les eaux du baptême et ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais au bout d'un moment leur premier amour se refroidit. Quelqu'un trouve qu'il devrait faire une organisation pour assurer leur avenir et se faire un nom. Et les voilà qui reforment une organisation, dès la deuxième génération, et parfois même avant. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu mais seulement une forme de culte. Ils sont morts. Ils se sont hybridés avec les credos et les formes, et il n'y a plus de vie en eux. Maintenant, ce n'est pas une très bonne chose qu'il dit ici, mais c'est la vérité, et cela arrive juste dans ce message aussi, car cela doit accomplir le modèle, selon lequel Alpha Esther est devenu l'Oméga. Et encore, frère Branham dit dans son livre des âges de l'Église chapitre 3, l'âge de l'Église d'Éphèse p. 60. La reproche de Dieu. Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit Néhémie parle pas seulement aux saints originels d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil, puis, dans la génération suivante, les feux diminuent. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut bien aimer plus rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu allume le feu, et le même processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de ce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle, pas plus que la succession apostolique n'existe. Ce n'est pas la parole. Au début, il y a de vrais croyants nés de nouveau, mais quand la génération suivante arrive, ce n'est mis sont plus de purs chrétiens, ils ont pris un nom de dénomination, et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils n'émis sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu, et non par la volonté des hommes. Mais ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté des hommes. Je n'émis dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je n'émis dis absolument pas cela, mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils n'émis sont plus pareils. 88-2 Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la volonté de s'avancer dans l'esprit, tout cela avait commencé à s'estomper, et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'était refroidie et était devenue un peu formelle. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens. À l'époque, ils devenaient un peu formels. L'abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était comme Israël, ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils rejetaient Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'Église. quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu. On est imitateur de pas aller voir arrêter de faire ce qu'il faisait avant, et se mettre à faire des choses qu'il n'aimait ni faisait pas au départ. Il change de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Il se relâche. Sestère, ce que signifie Éphèse, relâchement, laisser aller. Maintenant, revenons à l'église originelle dans l'âge de l'église d'Éphèse, pour voir ce qui les a rassemblés et comment ils ont été motivés. Il nous est dit dans Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Maintenant, remarquez ce que c'était, ce qu'ils continuaient à faire. 1. La doctrine et 2. La communion et 3. Dans la fraction du pain et 4. Dans la prière. Ainsi, je veux que vous remarquiez qu'en agissant de la sorte, la doctrine, la communion, la fraction du pain et la prière, que cela a créé une atmosphère d'expectative au milieu de l'église primitive. Et quand cela est arrivé, quel en était le résultat? 43. La crainte s'emparait de chacun. Maintenant, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et qu'Esther, ce que cette crainte et sagesse ont produit, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez, une atmosphère d'expectative avait été créée, et la sagesse, qui était venue du Saint-Esprit, avait amené les gens à une compréhension correcte de Dieu et comment sa puissance et présence agit dans nos vies. 44-45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Remarquez que leur attitude n'était pas égoïste, mais ils étaient concentrés sur la famille de Dieu. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et comment pouvez-vous être d'un commun accord, si chacun avait son agenda personnel? C'est-à-dire pourquoi, quand un jeune homme entre dans le corps des marines, la première chose qu'ils font, c'est de vous dépouiller de votre identité. Ils vous rasent les cheveux, comme un agneau devant la tondeuse, et ensuite, ils vous enlèvent vos habits et vous donnent des habits à porter, les habits que tous les autres portent, faisant que vous soyez tous habillés de la même manière. Et nous devons être habillés par la parole. Et nous devons revêtir toute l'armure de Dieu. Ensuite, dans l'armée, ils vous font passer à travers beaucoup d'exercices d'humiliation et ils testent chaque soldat au bord de leur brisement. Ainsi, ils peuvent vous dépouiller dans le but de vous reconstruire selon l'image qu'ils veulent que vous deveniez. Et ce n'est pas différent de ce que Dieu vous fait. Vous venez comme une bande d'individus, avec votre propre volonté et votre propre pensée, et il vous donne sa volonté et il vous donne la pensée de Christ, et il vous revêt des robes de justesse, non pas les robes de votre choix, ou les robes de votre compréhension, mais il vous revêt des robes de sa juste sagesse, et ensuite, il vous donne la pensée qui était en Christ, vous amenant à l'image de son cher Fils, qui était venu dans le monde, à l'image de son Père. 46-47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, ou simplicité de compréhension, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ainsi, nous voyons l'Église primitive et son amour pour Dieu, mais alors, nous le voyons, commencer à se relâcher et à s'éloigner de son premier amour, et nous savons que c'est terre destinée à s'accomplir de nouveau, en cette heure, car l'alpha est devenu l'oméga. Par conséquent, en revenant à l'avertissement de Paul, à l'église de Corinthe. Il dit, 1 Corinthiens 11:22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela je n'ai mis vous le point. Remarquez, Paul leur dit que ce qu'ils font montre qu'ils n'ont aucun respect pour la maison de Dieu. Le message leur est devenu familier. Maintenant, l'église à Corinthe n'était pas dans une très bonne condition spirituelle ici, comme l'apôtre Paul le mentionne ici. Il y avait beaucoup du charnel parmi les gens, qui n'aimaient se concentrer pas sur la doctrine de Christ, mais plutôt, ils étaient concentrés sur eux-mêmes et les uns, les autres. L'église de Corinthe était comme l'église de Laodicée. Égocentrique. Dans le sens de ce que Paul disait, est-ce qu'au lieu de se rassembler pour le souper du Seigneur, vous vous rassemblerez pour une soupe du souper. Il dit, vous y amenez beaucoup de nourriture de l'extérieur et produisez vous-même des porcs. Certains sont délaissés et rentrent affamés. D'autres doivent être ramenés, car trop ivres pour marcher. Il dit, je n'ai mis peu le croire. N'avez-vous pas vos propres maisons pour y manger et boire? Pourquoi continuez-vous à souiller l'église de Dieu? Pourquoi feriez-vous honte aux pauvres de Dieu? Je n'ai mis croire jamais que vous pouviez vous baisser jusque-là. Et je dois me taire et n'ai mis rien dire? Paul avait du cran. Il a dit, comme il l'a vu, et il n'était pas effrayé de parler de la part de Dieu. Maintenant, au verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. En d'autres termes, Paul dit, regardez, ce que je vous dis, je n'ai mis les pas reçus d'un séminaire, ou d'une certaine école, je l'ai reçu directement du Seigneur, lui-même, et c'est-à-dire ce qui est arrivé. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Remarquez, qu'il dit que ce que vous faites, est un symbole de mon corps, qui est brisé pour vous. Mon défi à votre égard, c'est que vous regardiez au plus profond de votre âme, quand vous vous approchez ce soir pour manger le pain et boire le vin, et vous souvenir de cette énorme frappe, au point que la chair fut arrachée de son corps et son sang fut répandu sur le sol pour vous tous. Ainsi, quand vous prenez ce pain sur vos lèvres, il a dit, faites ceci en mémoire de moi, et ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a 2000 ans, quand Jésus-Christ, le Fils premier-né de Dieu, montait seul cette colline de Golgotha, oublié de tous ses amis et familles, seulement pour avoir des clous claqués à travers ses poignets et ses pieds, pour le maintenir à la croix, pour suffoquer alors qu'il essayait de gérer chaque respiration. Je vous défie de fixer vos pensées sur Christ cette nuit, de vivre cette scène dans vos pensées, alors que vous vous avancez pour partager ces symboles. Parce qu'il a dit, ce que nous faisons. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. En d'autres termes, il dit, en faisant ceci, vous vous rappellerez de moi. Ainsi, quelle attitude devrions-nous avoir quand nous nous approchons de la table du Seigneur? Ce serait très révérencieux et un très profond examen de nos lacunes et nos attitudes taxistes. Ensuite, nous demanderons à Dieu d'avoir pitié de notre nature pécheresse et de créer en nous sa volonté et ainsi la capacité de faire son plaisir. Et qu'était ce plaisir? Dieu nous dit dans Esaïe 53:10, Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu fit cela à son propre Fils, afin de vous sauver. Maintenant, au verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est-elle la nouvelle alliance en mon sang ? Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et quand vous prenez la coupe de vin à vos lèvres, souvenez-vous de moi. » A-t-il dit, « Souvenez-vous de mon corps qui s'est répandu afin que la vie de l'esprit, qui coulait dans mes veines, puisse être libérée pour vous, afin que vous puissiez vivre. » Maintenant au verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Ce que vous devez réaliser solennellement, est que chaque fois que vous mangez ce pain et chaque fois que vous buvez de cette coupe, vous ramenez à votre esprit, vos propres paroles, et vos propres actions, ma mort pour vous. Alors Paul nous avertit au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Paul dit, vous n'aimez mais devez pas laisser la nature familière du mépris. Ainsi, que veut dire Paul par prendre cela indignement? Le mot grec, qui a été traduit comme indignement, était un axiome qui signifie, irrévérencieusement. Je pense que c'est très intéressant que l'un de ces journaux principaux en ligne de la gauche, Esther du même nom, est pas étonnant qu'il soit irrévérent à l'égard de ce qui est bon, le mot left Esther d'origine latine, et le mot latin left, Esther un adjectif signifiant le sinistre, mais prend le sens du mal acquis ou, malchanceux. Ce qui est intéressant, c'est le mot juste, qui est défini comme moralement bon, justifié ou acceptable, vrai ou correct en tant que fait, ou basé sur des faits. J'espère que cela résume l'aile gauche et droite aujourd'hui. La gauche a ôté Dieu de leur estrade et la droite essaie de demeurer avec la vraie et factuelle. Et Néhémie tombe pas dans l'émotion et les sensations, lesquelles sont complètement subjectives. Ainsi, Paul nous avertit au sujet de ceux qui voudraient de cette table du Seigneur, avec un manque de révérence. Ce service de communion n'est pas une certaine forme que nous pratiquons comme notre tradition, mais plutôt, c'est un temps sérieux et sacré de réflexion dans notre âme de notre conduite et pourquoi c'était nécessaire pour Jésus de faire le sacrifice ultime pour nous. Parce que nous n'y sommes simplement pas dignes de la vie Dieu, et n'y pouvions pas l'obtenir de nous-mêmes, ainsi l'a donné la sienne. Le vase qui a abrité la vie Dieu, dans le Fils de Dieu, la vie de Dieu, qui est revenu de Dieu, pour entrer dans ce vase choisi. En ayant ce vase dépouillé de sa peau et vidé de son sang, cela a permis que cette vie Dieu, qui a coulé à travers ses veines, coule librement dans votre âme et dans la mienne. Par conséquent, quiconque mange le pain et boit de la coupe du maître, indignement, est comme une partie de la foule, qui avait raillé et craché sur lui, lors de sa mort. Est-ce le genre de souvenir dont vous voulez faire partie? Ainsi, avant que vous n'ayez vous approchiez ce soir, s'il vous plaît, examinez vos motifs, examinez votre cœur, ensuite approchez-vous de ce repas, avec une sainte révérence et admiration. Ainsi, Paul dit au verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et ensuite, il dit au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, ce qui signifie avec irrévérence, mange et boit un jugement contre lui-même. si vous n'avez aucune pensée, ou pire, si vous n'aimez vous souciez pas du corps brisé de votre frère aîné, quand vous mangez et buvez, vous courez les risques des conséquences sérieuses. 30 sester pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il dit, qu'il y a beaucoup parmi vous, même maintenant, qui sont indifférents et malades, et d'autres qui sont allés tôt dans la tombe. Et ainsi, il nous dit d'éviter d'être irrévérents. 31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous n'y serions pas jugés. Et comment vous jugez-vous? Vous-même, il doit y avoir un repère. Et ce repère est-ce sa parole. En d'autres termes, si nous nous y conformons maintenant, nous n'aurons plus à nous y conformer plus tard. C'est-ce mieux d'être éprouvé par le maître maintenant, que de faire face à une confrontation fougueuse plus tard. 32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous n'aimions, soyons pas condamnés avec le monde. Et ce châtiment n'est-ce pas un battement, mais c'est-ce une formation, c'est-ce une instruction dans la justice. Le mot grec ester pédéo, qui signifie de former un enfant, s'ester à dire de l'éduquer, ou, par implication, discipliner, par la punition, châtiment, instruire, apprendre, enseigner. 33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. En d'autres termes, quand vous vous rassemblez à la table du Seigneur, soyez révérents et courtois les uns, les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, si vous avez tellement faim, que vous n'avez mis pouvez attendre d'être servi, allez à la maison et mangez d'abord, afin que vous n'ayez mis vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Néhémie risquait pour aucune raison de transformer ce repas à un repas avec frénésie ou une querelle familiale. C'est-ce un repas spirituel? C'est-ce une fête d'amour? Maintenant, changeons l'ordre du service, pendant que nos frères préparent le pain et le vin, et ouvrons nos Bibles, au témoignage de cette nuit et le dernier souper, pendant lequel Jésus nous avait donné un exemple à suivre. Jean 13:1-8. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Maintenant, ceci vous laisse connaître combien cette communion et ce lavage des pieds sont sacrés, c'est-ce un droit sacré et il faut y entrer avec révérence. 9-11 Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Maintenant, cette trahison dont Jésus parle, ce n'est-elle pas celle de Pierre, quand il a renié Christ, trois fois avant que le coq n'ait mis chante. C'est un reniement, mais ce n'est pas une trahison. La trahison, c'est ce que fit Judas pour l'argent. Il a trahi Jésus et s'est tourné vers les puissances gouvernantes de son jour. 12-15. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Frère Branham nous dit que Jésus était l'exemple de la semence de Dieu. Dans sa prédication, la parole parlait Esther la semence originale 18 mars 1962 MP, 91. Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c'est la même parole semence de Dieu. Le Fils de Dieu était sa semence qui a servi d'exemple, et ce que sa vie a lui a été, une fois que l'Esprit a été répandu sur lui, après qu'il a été baptisé et que le Saint-Esprit est revenu sur lui, la vie même qu'il a produite, eh bien, ce même Esprit, l'arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de vie, qui fera la même chose que ce que lui a fait, si c'est la même semence. Une semence de Fils de Dieu produira une semence de Fils de Dieu. 16-35. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, Néhémie sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table n'aimait comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, Et, comme j'ai dit aux Juifs, vous n'y pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Inclinons nos cœurs et nos têtes en révérence. Pendant que nos diacres demandent la bénédiction sur les éléments que nous allons partager. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bilvenga, bilvenga@yahoo.fr. C. Grace Fellowship Tabernacle. Ohio. USA.